Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Chef économiste du cabinet d'audit BDO France, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et on peut vous lire chaque mois dans Forbes. Et Céline Antonin, bienvenue.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, vous avez co-écrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Bonjour François Eckhall.
Bonjour.
Fondateur de Fipeco.fr, professeur d'économie à Paris 1. Vous me direz ce que vous pensez d'un nouveau mode de financement de la protection sociale. Je vais commencer par vous, François, qui est un spécialiste des finances publiques. Vous tombez bien aujourd'hui, on ne parle que de ça. Alors, j'ai fait le recensement de tout ce que l'on sait en matière de possibles coupes dans la dépense sociale. Qu'il s'agisse de réformes, qu'il s'agisse de hausse d'impôts d'une certaine manière, quand on double la franchise médicale sur les médicaments ou la visite chez le médecin, ou qu'il s'agisse d'économies de dépenses fiscales. Donc pour la santé, doublement des franchises médicales qui a déjà été engagé, les taxis sont en guerre contre le nouveau mode de remboursement des transports sanitaires, et se pose la question de savoir si quelqu'un qui souffre d'une ALD doit être pris en charge totalement à 100%, y compris pour des soins qui ne concernent pas cette affection longue durée, mais qui sont d'autres soins. Gabriel Attal confirme dans les allées du Salon de l'Agriculture au petit matin qu'il y aura une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Pourquoi pas réduire à nouveau les durées d'indemnisation ? Ou encore aller plus loin en termes de dégressivité des allocations. Pour l'instant, seulement les cadres sont concernés. Et le Figaro annonce ce matin qu'une piste serait de monter la CSG sur les indemnités chômage, qui aujourd'hui est plus faible que celle des actifs, à 6,2%. Contre 9,2% pour les actifs. Après, vous le savez, il y a la fin de l'allocation spécifique de solidarité qui a été annoncée et également un RSA sous condition qui sera généralisé à l'ensemble du territoire. Conditionné à 15 à 20 ans d'activité par semaine, ce sera au début de l'année prochaine. Thomas Cazenave n'exclut pas une sous-indexation des pensions de retraite en 2025. Cette année, elles ont été totalement indexées sur la courbe des prix, ce qui a coûté 14,5 milliards d'euros. Et puis Gabriel Attal, encore lui, qui dit qu'on pourrait peut-être aller plus loin en termes de modulation des allocations familiales en fonction des revenus. François Hollande avait commencé à transformer une politique familiale en politique de solidarité lorsqu'il était président de la République. Vous voyez ça comment, François Eckhall ? Ça s'appelle de la hausse d'impôts qui ne dit pas son nom ? Ça s'appelle des économies de dépenses sociales ? Quel titre on y met ?
Oh, il y a beaucoup d'économies de dépenses sociales. Il y a quelques hausses d'impôts qui traînent par-ci, par-là, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. C'est pas très surprenant. Gouvernement s'est donné des objectifs d'évolution des dépenses publiques à l'horizon de 2027 qui sont très contraignante. Et il a toujours dit que rien que pour le 2025, il fallait trouver une douzaine de milliards d'euros d'économies. Comme les dépenses sociales, c'est plus de la moitié des dépenses publiques, forcément, il va y en avoir, enfin, si on arrive à atteindre cet objectif, il y aura des économies sur les dépenses sociales. Il n'y en a pas eu, là, en effet, et il a dit qu'on ne touchait pas au budget social, parce qu'on a pris des mesures par un décret d'annulation de crédit sur les dépenses de l'État.
On ne peut le faire que sur les dépenses de l'État.
On ne peut le faire que sur les dépenses de l'État.
Il faut aller au Parlement, si on veut.
Pour toucher les dépenses sociales, pour modifier des prestations sociales, il faut une loi de financement de la sécurité sociale, donc il faut passer par le Parlement. Donc ça aura peut-être lieu, mais ça n'aura vraisemblablement lieu que plus tard, sans doute pas avant l'été, sans doute normalement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine, donc pour 2025. Donc pour 2025, oui, il y aura probablement...
Vous imaginez que cette panoplie que j'annonce, là, elle ne verrait le jour qu'en 2025 et pas plus tôt?
Non, ça m'étonnerait. Ouais. Juridiquement, on ne peut pas aller plus loin, là, ce qu'on vient de faire en matière d'annulation de crédit de l'État. Juridiquement, il faut un vote au Parlement pour aller plus loin. Peut-être Bruno Le Maire a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une loi de finances rectificative à l'été, mais là encore, ça ne concernera que le budget de l'État. Donc ça peut toucher un certain nombre de choses, mais pour l'essentiel des dépenses sociales, ça sera pour l'année prochaine, oui.
Enfin, en tout cas, c'est une manière de dire la vérité aux gens. Là, on est en train de leur dire la vérité, il faut arrêter de leur dire
qu'on est en train de lancer des ballons d'essai.
Oui, vous le dites gentiment, des ballons d'essai. Oui, voilà. Mais enfin, on s'apprête à faire la troisième réforme de l'assurance chômage en l'espace de 2 ou 3 ans.
Oui, alors c'est peut-être un peu beaucoup.
Parce que moi, j'avais toujours cru comprendre que normalement, on devait mener des politiques budgétaires contracycliques. c'est-à-dire protéger au maximum quand ça va mal et éventuellement serrer la vis quand ça va bien. C'est l'histoire du toit qu'il faut réparer quand il fait beau.
Alors sur ce point-là, moi, ce que je dis, c'est que ce qui est important, et c'est l'esprit d'ailleurs des nouvelles règles budgétaires européennes, c'est de se donner un objectif d'évolution de dépenses et de s'y tenir.
Et donc c'est ce qu'on fait là.
En fait, c'est ce qu'on fait, parce qu'objectif, voilà, on peut éventuellement, peut-être que pour être totalement dans les clous de ces règles, il fallait en effet trouver 4-5 milliards d'euros d'économies en plus cette année. Mais il n'y a pas besoin de faire plus. Donc moi, ce que je dis en effet, c'est qu'il faut se tenir à ça. En revanche, je pense que là, on fait probablement une erreur quand on essaye de tenir, je dirais, coûte que coûte, un objectif de déficit public. Ça n'est plus ce que nous demande... les règles européennes, l'objectif de déficit existe toujours, hein, on est toujours censé revenir un jour au-dessous de 3% du PIB, mais à un horizon qui n'est en réalité pas précis. Donc ça peut attendre, hein, d'une certaine façon.
Oublions le déficit, concentrons-nous sur
la conjoncture est mauvaise et si le déficit s'accroît pour des raisons conjoncturelles, parce que les recettes sont moins bonnes que ce qui était prévu, je dirais tant pis. En revanche, moi je maintiens qu'il faut tenir l'objectif de dépense, il est très contraignant, ça va être très difficile, il n'est pas du tout sûr qu'on y arrive. Déjà, les 10 milliards, là, je pense qu'à la fin de l'année, on ne sera pas à 10 milliards nets d'économies, parce qu'on va réengager des dépenses ailleurs. Donc, si on arrive à faire 4-5 milliards d'économies en net sur cette année...
Vous pensez qu'en net, on ira à 4-5 ?
Mais non, mais on va... dans le décret d'annulation, il n'y a que des annulations. Il va falloir ouvrir des crédits pour les agriculteurs, pour l'Ukraine, pour le... des tas de choses, voilà, donc... en net, on a beaucoup parlé des 900 millions d'économies sur la mission recherche et enseignement supérieur. Oui. En fait, on va couper peut-être 900 millions de subventions à ces organismes, mais ils ont quelques milliards d'euros en trésorerie. Donc, cette année, ils vont faire à peu près les mêmes dépenses en puisant sur leur trésorerie. Alors, c'est pas neutre. Ça veut dire que cette trésorerie comptait l'utiliser pour des dépenses ultérieures, des projets, etc., qu'ils vont être obligés de revoir. Donc, c'est pas neutre. Ça aura bien un effet, mais ça n'aura pas pour effet de baisser les dépenses de 900 millions dès cette année. Voilà, donc au final, à la fin de l'année, on ne sera pas à 10 milliards.
Mais j'avais posé
je dirais que ce n'est pas trop grave, finalement.
Bon, j'avais posé la question, justement, je me demandais si les 10 milliards annoncés, et annoncés notamment par décret et publiés au journal officiel, on pouvait les prendre comme du brut ou du net. Vous me dites que c'est du brut.
C'est du brut brut.
Donc voilà, il va falloir tenir compte de ce qu'on a donné aux hôpitaux, de ce qu'on a donné notamment... Bon, Anne-Sophie Alsif, par rapport à ce qu'on a dit... ça vous inspire quoi ? Moi, j'ai l'impression que c'est le pire est à venir, quoi.
Alors,
il y a
non,
un moment, il faut arrêter de se voiler la face.
Je pense que le pire n'est pas à venir et qu'on a toujours ce débat. Vous vous souvenez, année à année, en disant le mur de la dette. Je me souviens, on avait cette discussion post-Covid quand on a fait nos 20 points de DIB à juste titre, mais ça nous a permis de pas être à terre. Et ce que je suis assez étonnée dans ces discussions, bien sûr, il faut parler de la trajectoire, mais il faut parler quand même d'un élément essentiel qui est le taux de croissance. Et à mon sens, pourquoi il y a eu cette revue des 10 milliards ? Parce qu'en effet, les prévisions de croissance du gouvernement était beaucoup trop optimiste, hein, comme nous on n'était pas en ligne, on est plutôt à 0,8, donc à mon sens il y aura encore une revue à la baisse du taux de croissance de la prévision.
Vous pensez que le 1% on va pas le tenir?
Exactement. Et donc par définition, comme on a plus cette croissance économique, en tout cas qu'on en a beaucoup moins que prévu, eh bien tout de suite il y a ce corollaire sur les dépenses publiques. Mais je pense que c'est important de le lier tout de suite parce qu'en effet le pari du gouvernement c'est on continue un quoi qu'il en coûte moins important.
On garde comme ça, Anne-Sophie.
Bon, quand même, il y a quand même des chèques qui sont faits chaque semaine à des secteurs différents. Donc, quand même, il y a toujours un certain quoi qu'il en coûte, quand même.
On va dire qu'il n'y a plus rien du tout. Si on considère l'achat d'une voiture électrique, c'est du quoi qu'il en coûte, bon...
Bon, il y a quand même, quand vous regardez les chèques, on l'a dit, hein, dépenses et ce qui est annoncé à chaque fois, chaque semaine, dans tel ou tel secteur, on peut dire que c'est totalement la fin du quoi qu'il en coûte. En tout cas, il y a encore un peu de la politique budgétaire. Il y a encore la politique budgétaire. Et donc, l'idée, c'est on garde ça pour tout de suite essayer de garder un minimum de consommation des ménages qui a énormément ralenti, mais qui se maintient, sachant que l'investissement des entreprises s'est effondré, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et parce qu'on garde ce minimum de croissance des ménages, eh bien, on a un minimum de croissance. L'année dernière, c'est vrai, on n'était pas en récession comme par exemple l'Allemagne ou d'autres pays. Et ça nous permet de ne pas être en récession et donc de garder un minimum sur nos dépenses publiques. Donc, c'est ça l'idée et sur les finances publiques. C'est ça l'idée du gouvernement. Là, il faut le dire, en allant sur les dépenses sociales, vous l'avez dit à juste titre, c'est là, si on veut vraiment faire des économies, où il faut aller. Il faut rappeler que souvent, à chaque fois, c'est du revenu déguisé ou pas, direct ou indirect, donné aux Français. Souvent à des gens qui ont des revenus les plus bas. Donc, c'est-à-dire que quand vous donnez ces revenus, il est tout de suite réinjecté dans l'économie, hein, ce qui n'est pas le cas quand, par exemple, on disait la politique familiale, vous le donnez la même somme à tout le monde, et ben une partie, quand vous avez des revenus plus élevés, va juste être épargnée, sachant qu'on a déjà 17,7% de taux d'épargne, hein, un record, donc on n'a pas besoin de plus d'épargne. Et donc, à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait si on va là-dessus sur les dépenses sociales? C'est que ça peut être récessif, en tout cas ça peut avoir un impact encore négatif sur le taux de croissance.
Céline.
Et donc on fait l'aspect boule de neige, et c'est pour ça qu'à mon sens, la réforme sur les trajectoires, plus que d'avoir un taux, on va dire, annuellement à respecter, est beaucoup plus efficace parce qu'il est beaucoup moins récessif.
Céline, oui, par rapport à ce qu'on vient de dire, moi j'aurais une question après, parce que j'ai pas l'habitude de voir 10 milliards rayés par décret d'annulation.
Oui, alors bon, je pense que beaucoup, enfin, l'essentiel a été.
Tournez un peu le micro un peu plus vers vous, là.
J'ai toujours un problème avec ce micro.
Non, mais il faut carrément le prendre et le tendre un peu.
Carrément. Voilà. Carrément. Comme la dépense publique.
Exactement.
Donc oui, je disais par rapport à ce qu'on vient de dire, je pense que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'effectivement, le meilleur moyen, finalement, de réduire un déficit, c'est d'avoir de la croissance. Bon, malheureusement, on n'en a pas. Et justement, la question que vous posiez sur tout ce qui était politique contracyclique, le problème, c'est qu'on a connu aussi deux crises successives qui font que on ne sait plus dans quelle. Enfin, finalement, est-ce qu'on est sorti de la crise? Est-ce qu'on est encore dans une politique contracyclique? Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter parce que finalement, jusqu'en 2019, on pouvait dire là, on pouvait réduire le déficit. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est vraiment sorti? Est-ce que l'effet, par exemple, de la crise énergétique est totalement fini, enfin voilà, donc il y a quand même ce genre de questions. Et après, je voulais rappeler que sur la croissance, la cause principale de la baisse de croissance aujourd'hui, enfin pour moi, c'est la hausse des taux d'intérêt. Mmh. Et je veux dire, nous, on calcule, par exemple, quand on calcule, on fait un peu la comptabilité de la croissance, on regarde quelle aurait été la croissance, on va dire, en période normale, donc le potentiel de croissance, et puis un rattrapage un peu de croissance, donc qui donne une croissance spontanée pour l'économie française, et on retranche les différents chocs, et le choc de politique monétaire, il fait 0,8 points de PIB, en fait, donc en 2024, par exemple. Donc voilà, donc en fait, c'est quand même essentiellement ça. Alors, c'est vrai que ça transite par le canal à la fois de la consommation, de l'investissement pour les entreprises, mais du coup, ça, c'est un choc vraiment pérenne. Et du coup, dans ce contexte de taux élevés qui, à mon avis, ne vont pas baisser tout de suite, en plus, parce que quand on entend les dernières... Enfin voilà, des derniers propos de la Banque Centrale Européenne, on voit que l'idée n'est pas de baisser les taux demain. Donc voilà, on doit quand même se projeter aussi dans ce contexte. Et du coup, l'économie est plus pénible, enfin est plus compliquée à faire, et l'équation est plus difficile à résoudre.
François, oui, mais ça c'est bon. C'est sûr que c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer une date de la première baisse des taux par la BCE. Oui. La petite rumeur de marché, c'était que la BCE allait commencer avant la Réserve fédérale américaine.
Oui, mais je crois que la Réserve fédérale commence
bon,
avant.
Bon.
Enfin, si je devais me.
À côté de ça. Bruno Le Maire disait, on n'a jamais fait autant d'économies de dépenses par un simple décret d'annulation. 10 milliards.
Oui. Le dernier record, c'était 5.
Voilà. Et il dit, on peut aller à 12 max, d'après ce qu'il disait, oui. Compte tenu de ce qui est inscrit dans la LOLF.
Oui, avec une interprétation un peu extensive de ce qui est possible, mais qui a été validée par la Cour des comptes il y a quelques années. Donc,
C'est quand même, voilà, mettre 10 milliards d'économie où, bon, peut-être qu'à l'arrivée en net, on sera à 4 ou 5 milliards. Commencer à faire toute une liste, finalement, de réformes en tout genre, du système social, du système d'État-providence, qui conduirait à l'arrivée à avoir un système moins généreux. J'ai pas vu souvent les gouvernements réagir comme ça. J'ai l'impression, en fait, qu'ils flippent un peu, quand même, là.
Non.
Croyez pas qu'ils flippent un peu et qu'ils se disent que ce fameux couperet d'agences de notation, qu'on a tendance finalement depuis 2012 à considérer comme un non-événement, puisque la perte du triple A n'a pas eu d'effet. Oui, d'accord, Anne-Sophie, le mur de la dette, Nicolas Bavrez qui nous dit on va se fracasser contre le mur de la dette. Est-ce qu'un jour ça peut arriver?
Un jour, oui, probablement, mais on ne sait pas quand. Moi, je crains que ça n'arrive un jour, mais je suis incapable de dire quand. En tout cas, je ne pense pas que ce soit l'intervention des agences de notation qui provoque ça.
Je dirais que c'est postérieur.
Oui, ça peut même être après.
Après coup.
Souvent, elles ont réagi après coup. Le fait de passer de A plus à A moins, ça ne va pas changer grand-chose.
Je suis d'accord, mais j'ai l'impression...
Sauf s'il y a en même temps toute une série de mauvaises nouvelles. Là, je pense qu'il y a une mauvaise nouvelle qui va peut-être arriver, mais on a commencé déjà à en avoir quelques prémices, c'est le déficit 2023. On sait que du point de vue budgétaire, il est 7 à 8 milliards plus haut que ce qui était prévu.
On avait prévu 4,9.
On attend d'avoir les résultats de l'INSEE fin mars. 4,9, c'est pas du tout gagné. Donc, c'est vrai que si on a une accumulation comme ça de mauvaises nouvelles, sans réaction, comme celle qui vient d'être prise avec ces décrets d'annulation, c'est vrai qu'il peut y a avoir, mais je pense pas. Mais je pense pas pour autant qu'on soit dans la même situation.
Alors, une anecdote, parce que en 2013, imaginez, il y a 11 ans, j'avais eu une petite discussion un peu tendue avec Pierre Moscovici, ministre, enfin qui était à Bercy à l'époque. On était sur Canal Plus, chez Thierry Ardisson, je me souviens, et il m'avait dit en sortant off. De toute façon, il y a qu'un truc qu'on regarde. C'est les taux longs, hein. C'est les rendements souverains. Il y a que ça qui nous intéresse.
Ils sont à 60 points. Le spread est à 60 points de base depuis je sais pas combien de temps.
C'est une intuition. J'ai l'intuition qu'ils sont un peu moins sereins avec tout ça aujourd'hui, peut-être qu'avant.
Oui.
Mais alors, vous dire quand, allez-y Anne-Sophie.
Non, par rapport à ça, je pense que bon, on aime toujours être catastrophique.
Non, pas ici.
Mais c'est vrai, quand on regarde les chiffres et les faits, hein, surtout depuis le Covid, qu'est-ce qu'on voit, et surtout par rapport aux autres, parce que c'est toujours ça. Depuis la crise Covid, il n'y a jamais eu autant de liquidités qui ont été injectées au niveau mondial.
Totalement,
et aujourd'hui, cette liquidité, on a parlé du taux d'épargne, hein, il faut bien la placer quelque part. Et quand vous regardez notamment ce qu'écrit aussi les agences de notation, ils disent bien sûr attention sur la trajectoire de la dette, mais dans un certain nombre de domaines, la France s'en sort quand même pas si mal par rapport à ses partenaires européens. Bien sûr, on a parlé de l'Allemagne, mais sur d'autres éléments, on a parlé de l'investissement, on a parlé de la consommation. Moi, je me souviens des débats en disant « Ah, la consommation, c'est fini avec le fin quoi qu'il en coûte, va s'effronter, etc. » On voit qu'on arrive quand même à tenir. C'est vraiment l'investissement des entreprises qui pâtit en effet à cause de la hausse des taux. Mais il faut rappeler, quand vous augmentez les taux, le but, c'est quand même de ralentir la croissance. C'est ça l'objectif. Donc, c'est quelque chose qui était prévisible. Et donc, après, les États essaient de réagir, mais c'est quand même prévisible que vous ayez un ralentissement de votre croissance économique. Et puis, globalement, quand vous voyez le contexte, qu'est-ce que vous voyez? On a aussi politiquement, alors on critique, etc., mais politiquement, vous voyez quand même que vous avez une certaine continuité. Alors, on parle beaucoup de revoir le régime par rapport aux coalitions, etc., mais depuis quand même les deux mandats et là, la fin de ce mandat, vous avez par rapport notamment à nos partenaires européens, ce qui s'est passé au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas, vous avez quand même une continuité du pouvoir avec des mesures qu'on certes du mal à passer, mais qui passe. Et quand vous regardez, vous lisez pas juste les trois lignes du bulletin des agences de notation, mais ensuite, c'est
ce que
quelque chose.
Faire, hein.
Voilà. Non, mais ce qu'on fait tous, c'est ce que l'on a tendance à voir.
Et je me souviens que Fitch, d'ailleurs, avait des avis très positifs et pas que des avis très négatifs.
Exactement.
J'ai plus les termes, mais c'était tout à fait.
Et donc, la chose de dire la dette, attention, bien sûr, et comme vous le dites, il faut regarder vraiment les taux et c'est là où ça joue. Mais en plus, on a aussi beaucoup plus de mécanismes de protection que pendant, avant la crise de 2008. Donc, quand vous faites la somme de tout ça, vous voyez que, certes, il faut avoir une trajectoire de désendettement, mais que c'est, à mon sens, pas du tout ça le vrai problème à très court terme pour les économies européennes.
J'ai simplement l'impression d'avoir rarement vu un exécutif.
Vous pensez pas que c'est
courir
plus politique qu'économique avec les nouvelles alliances à droite qui doivent se faire?
Oui, peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils courent vraiment quand même après les économies en grattant tous les tiroirs, comme assez rarement j'y ai assisté. Mais peut-être que j'ai courte mémoire. Pardon, Céline.
Oui, non, mais disons que je pense que ce qui est important, c'est la soutenabilité de la dette. Et effectivement, pour l'instant, la soutenabilité de la dette. Alors, effectivement, elle est moins bonne. La montée des taux d'un côté, la faible croissance de l'autre, fait que, elle est plus fragile, mais bon, je pense pas effectivement que ce soit le problème numéro un, surtout qu'il y a un besoin, enfin, on l'a dit, il y a un besoin de liquidité à l'échelle mondiale, et qu'en fait l'endettement public a progressé dans la plupart des pays. Effectivement, post-Covid, déjà on a eu une progression de l'endettement. Peut-être que ce qui pose davantage problème, c'est le fait que, mais ça c'est aussi un serpent de mer, on ne détient pas notre dette, enfin on détient assez peu notre dette. D'autres pays peuvent peut-être se dire, bah ici effectivement il y a un vrai souci sur la dette, on peut toujours augmenter la fiscalité, puis voilà. Enfin, en tout cas, il y a disons que ce problème de la détention de la dette qui est inégal et qui en France effectivement n'est pas parmi les pays qui détiennent le plus leur dette souveraine, c'est peut-être un souci, mais je pense pas que ce soit
un peu moins de 50%.
Oui, c'est ça, mais voilà, c'est très étranger, c'est très pro-européen.
Oui,
aussi,
tout à fait,
donc,
tout à fait, c'est vrai. Et puis on a vu quand même qu'on s'est aussi doté à l'échelle de la zone euro d'un certain nombre de mécanismes qui ont fait que, enfin voilà, qu'on s'est aussi armé davantage. Après, je pense que ça effectivement il y a une vraie préoccupation sans doute du pouvoir politique, mais aussi pour envoyer un signal, parce que c'est vrai que juste pour faire un comparatif, alors l'Allemagne n'est pas ma référence absolue, mais aujourd'hui en Allemagne, on est à 2,4% de déficit. Donc voilà, alors que l'Allemagne
et moins de 70%
et moins de 70% d'endettement public.
Ouais. Après, juste pour agir par rapport à ça, c'est aussi leur force et leur faiblesse, puisque c'est vrai que
ça leur
empêche de
notamment en termes d'investissement.
Et quand on
dit qu'il y a
la croissance potentielle, elle est
Je suis d'accord, mais c'est vrai que peut-être que l'idéal est un entre-deux, quoi.
On marque une pause. Il y a un élément, je me tournerai vers vous Céline, qui peut peut-être nous profiter si les prix de l'énergie baissent beaucoup plus que prévu. Il faut reconnaître que ce qu'on observe aujourd'hui, notamment sur les marchés néerlandais, sont des niveaux qu'on n'avait pas anticipés. Après, on s'intéressera au financement de la protection sociale, au prix plancher et à la suprématie indéboulonnable du dollar. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.